On va prendre ensemble, on va prier. Seigneur, bénis ce temps dans la parole. Vraiment, parle à chacun d'entre nous. Et montre-nous quelque chose de particulier, Seigneur, notre Dieu, à travers ta parole. Amen. Si vous avez des problèmes sur Zoom, faites-moi un signe. Voilà. On va commencer à lire à partir de Marc chapitre 10. À partir de verset 17, s'il vous plaît. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point. Tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regardait autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns les autres, « Mais qui peut être sauvé ?» Jésus le regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Alors j'ai pris ce passage parce que j'ai demandé à Pasteur Tony s'il avait un sujet. Il m'a dit, « Parle-moi sur Marc, chapitre 10, verset 21. Si j'ai lu tout ce passage, bien évidemment, c'est pour le mettre dans le contexte. Alors, je vais commencer par quelque chose de plus drôle. Ce passage, comme ce jeune homme riche, il vient demander à Dieu, à Jésus-Christ, quelque chose de particulier. Ben, Dieu lui a exaucé, Jésus lui a exaucé d'une façon qu'il ne s'attendait certainement pas. Bref, revenons un peu à notre passage. De quoi ? Revenons à ce passage. Déjà, ce passage-là, il se situe juste après que Jésus parle, que Jésus prend des enfants et les met au milieu des disciples pour leur parler en disant, voilà, le royaume des dieux est à ceux qui leur ressemblent, aux enfants, Marc chapitre 10, versets 13 et 15. Donc, il y a ce jeune homme qui arrive, première chose qu'il se fait, il se met à genoux et il dit, maître. Mais si vous regardez le côté grec ou même le côté hébreu, en fait, quand il parle de maître, il parle comme d'un ouvrier. C'est drôle parce qu'il considère Jésus comme un ouvrier, pas comme quelqu'un. Il a une autorité, mais ce n'est pas Dieu. Et là, on a quelque chose d'intéressant. Il dit, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, vous connaissez? C'est-à-dire que dans tout le respect de la loi hébraïque, il manque cette chose-là, il manque la vie Zoé, Jean chapitre 10, verset 10, il manque la vie de résurrection. Et pourtant, là, il y a quelque chose d'intéressant. Je n'ai jamais remarqué ça. Vous avez remarqué que déjà, Jésus, il a parlé, il a donné 6 commandements sur 10. Et sur les 6 commandements, il n'y en a aucun qui parle de Dieu. Sur les 6 commandements, il ne s'adresse que sur le côté relationnel. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, etc., etc. Il n'y en a aucun qui parle de Dieu, c'est bizarre. Alors que le commandement, le premier commandement, c'est quoi? C'est Israël. Écoute, voici, notre Dieu est un. Il ne parle même pas de ça. Il parle des 6 commandements, terre à terre. Et cet homme arrive, donc évidemment, il manque forcément quelque chose, il manque la vie éternelle. Mais Jésus, il parle vraiment de côté, voilà. Tu sais ce que la loi dit par rapport à tes relations les uns les autres. Et cet homme, il dit, oui, je respecte ça dès ma jeunesse. Et j'en veux dire, première chose, qui peut oser dire, Seigneur, je respecte toute la loi hébraïque. Quelle, c'est vraiment un, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'orgueil, si on peut appeler ça de, je prétends connaître, je prétends obéir à Dieu, c'est impossible. Vous regardez les commandements de Dieu, c'est juste impossible. Ça fait, les gens qui se disent que je vais appliquer toute la loi de Dieu, ça fait des pharisiens. Et on sait très bien ce que les pharisiens ont fait, ils ont carrément crucifié Jésus-Christ. Là, ils ont crucifié la lumière, ils ont crucifié le prince de la paix. Voilà ce que ça fait, ceux qui se croient en disant « je respecte toute la loi ». Ça fait comme des judaïsants dans le livre de Galates. C'est impossible de respecter la loi. Mais aujourd'hui, j'aimerais plus vous parler de côté les richesses. Cet homme avait des grandes richesses. Vous savez que nous, en tant que chrétiens, on peut avoir aussi beaucoup de richesses. Hello. Nous, en tant que chrétiens, on peut avoir beaucoup de richesses, pas forcément matérielles. Et pourtant, ces richesses nous empêchent de suivre Christ. Par exemple, certains qui vont avoir ces richesses, c'est un don. Le don dans la musique, le don dans ceci, le don dans cela. Ils mettent leur identité dans cette richesse que Dieu leur a donnée au départ. Mais en mettant leur don là-dedans, ben, ils oublient de suivre Christ. La richesse, si vous regardez le mot grec, ça nous parle certes de richesses matérielles, mais ça nous parle aussi des richesses immatérielles. Quelqu'un qui peut se dire le don de la théologie. Voilà, j'ai fait 10 ans d'études, c'est bon, je suis calé là-dedans. Je n'ai plus. Pourtant, ça peut m'empêcher de suivre Christ. Pourquoi ? Parce que si on entend la parole de Dieu, on ne la mélange pas avec la foi, ça fait des judaïsants, ça fait des pharisiens. Il y en a qui peuvent avoir des dons. Regarde Seigneur, ma richesse est de servir dans plein de choses bénévoles. Mais je n'ai pas le temps de te suivre, Seigneur. Seigneur, ma richesse est que je prends soin de mes parents, je veux les enterrer et après je te suivrai. C'est une richesse immatérielle, mais tu ne suis pas Dieu. Et cela peut même t'empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu. Il y en a certains qui vont se confier peut-être dans « Regardez, moi je suis un patron dans ma vie de tous les jours. Quand j'arrive à l'église, je veux que les gens m'obéissent. » C'est une forme de richesse qu'on doit abandonner. Vous voyez, les richesses, ce n'est pas juste le côté matériel. Souvent, quand on prend ce passage-là, on prend que le côté matériel en disant « Seigneur, c'est beau, je te donne 10% de ma dîme, etc. etc. » Non, non, on peut avoir des richesses personnelles que nous, on se dise « Voilà, ça, c'est ma richesse. Ça, c'est en quoi je me confie. » Comme on l'a lu dans le passage, cet homme-là se confie dans ses richesses. Ben, cela m'empêche de rentrer dans le royaume de Dieu. Cela m'empêche de suivre Christ. C'est incroyable. Les richesses, ce n'est pas juste matériel. Mais maintenant, je vous pose une question pour nous. Qu'est-ce qui peut nous aider à abandonner toutes ces choses qui peuvent être bonnes pour suivre Christ, Qu'est-ce qui peut nous aider? C'est une question que je vous pose. Dans le même passage. Avant la croix. Et ce passage-là, ce verset-là, on peut l'appliquer pour nous dans tous les domaines de notre vie. On peut l'appliquer à la conversion, on peut l'appliquer dans notre vie chrétienne et on peut l'appliquer quand on traversera la mort. Le verset 21, comment il commence? Quelqu'un peut me le dire? Jésus le regarda premièrement avec amour. Parce que Jésus le regarde avec amour, on se dit, comme l'apôtre Paul, toutes ces choses-là, c'est rien pour moi. Ça n'a pas de poids. Parce que Jésus-Christ me regarde avec amour. Quand l'apôtre Paul, Actes chapitre 9, sur le chemin de Damas, Jésus-Christ ne dit pas « Oh, je te condamne, tu as tué les Étienne, tu as tué les chrétiens. » Un regard d'amour. Pardon, je t'ai fait peur. Un regard d'amour. Un regard de grâce. Waouh! Vous vous rappelez? Ah là là. Vous vous rappelez quand les pharisiens, ils amènent une femme en flagrant délit vers Jésus. Il dit, Seigneur, elle a péché. Jésus se leva, peut-être qu'il ne les a même pas regardés, parce qu'il ne les considérait pas. Il dit, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Et il continue à écrire. Et quand il s'est retrouvé avec cette femme, que forcément elle méritait la mort, comme nous tous, on mérite la mort. Jésus le regarda avec grâce, compassion, amour. Et vous savez ce que ça fait, le regard de Jésus? Ça bouleverse notre vie et ça nous pousse au changement. C'est les bontés de l'Éternel qui nous fait renoncer aux choses viles de ce monde. Le regard de Christ. Maintenant, vous allez me dire, mais attendez, Horace, ce que tu me dis, ça veut dire que je dois abandonner toutes les richesses. On a cette impression que Jésus dit, mais quand Jésus dit, si vous ne quittez pas vos maisons, vos épouses, enfin vos épouses, je ne sais plus comment c'est tourné. Bon, vous ne quittez pas toutes ces choses-là et vous suivez Christ, vous n'êtes pas digne de moi. Non, mais Dieu, parfois, nous amène dans une extrémité. Vous vous rappelez la femme de Sarepta? Elle n'avait rien à manger. Pourtant, Dieu conduit Élie dans cette maison-là. Elle n'avait rien à manger. Et son plan à elle, il était magnifique. Hein. Écoute, Élie, je reconnais que tu es un prophète. J'ai prévu de faire un petit goûter avec mon fils et on va attendre la mort. Pourtant, cette femme-là a obéi. Donc Dieu n'a pas envie qu'on se dépouille nous-mêmes en disant, tiens, j'ai un téléphone, quelqu'un le veut. Non, ce n'est pas ça. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est travailler notre cœur pour que rien, rien de tout, ne nous empêche de le suivre. Vous savez ce qu'on peut avoir, nous aussi, comme richesse, qui peut nous empêcher de suivre Christ? C'est notre passé. Ah Seigneur, là-dedans, je suis trop coupable. Ah Seigneur, ce que j'ai fait aujourd'hui. Ah Seigneur, à l'époque, j'allais dans l'église, je te louais pendant 10 ans, je marchais catastrophique. Ok, tu m'as ramené à l'église. Notre passé, ça pouvait être une forme de richesse sur laquelle on se confie et on oublie de suivre Christ. C'est incroyable. Façon de dire, c'est incroyable, c'est croyable. Pourtant, Dieu, Jésus, nous lance le regard d'amour. Qu'est-ce que s'est passé avec Pierre? Vous n'avez jamais posé la question pourquoi Pierre il a pleuré quand il a renié Jésus? Parce qu'il a le Seigneur le regarda et ça a bouleversé son cœur et il a pleuré et il a pleuré. Et qu'est-ce que s'est passé après? On voit dans le livre des Actes, Pierre il dit quoi? Vous avez renié le juste, le saint, parce qu'il savait très bien que le regard de Christ c'est pas un regard de condamnation. Le regard de Christ, ce n'est pas un regard de « c'est encore toi ?» C'est un regard juste, gracieux, rempli de miséricorde, rempli de paix. Le manque de confiance en Dieu peut nous empêcher de le suivre. C'est une forme de richesse. Désolé Seigneur, je ne peux pas entrer dans le pays de Canaan. Rappelez-vous les 12, dans Nombre chapitre 11. Je ne peux pas entrer Seigneur, il y a des géants. C'est la richesse de ce pays, c'est les géants. C'est vrai, on est deux pour planter une grappe. C'est vrai ce que tu dis, les promesses sont oui et amen. De Corinthiens chapitre 1, oui, c'est vrai, les promesses sont oui et amen. Mais non, il y a la richesse qui est là-bas de pays, c'est géant. Je ne peux pas te suivre là-dedans. Je ne peux pas te suivre. Résultat de course, ok, bah tournez en rond. Tournez en rond pendant 40 jours. C'est vraiment... Vous voyez, on a pas mal de richesses. On est riche, en fait. Hein. Mais ces richesses-là, catastrophiques. Le regard de Jésus sur une situation. Mais j'aimerais vous parler d'autre chose. Il y a quelque chose de particulier quand on regarde à Jésus. Et quand on sait le type de regard que Jésus a envers nous. Vous savez ce que c'est? Tout ce qui se passe autour n'a plus d'importance. N'a plus d'importance. Vous vous rappelez le passage de Marc, chapitre 7? Quand cette femme rentre dans la maison de Simon, le pharisien, elle ne dit rien. Elle sait très bien qui elle est. Elle connaît très bien son passé. Et pourtant, elle vient avec une fiole d'huile pour oindre Jésus. Et là, on a cet homme parfait humainement, qui se croit parfait, qui a plein de richesses. Non seulement il a jugé la femme, Mais il a également jugé Jésus en disant, mais ce gars-là ne connaît pas cette femme. Il a condamné Jésus, vous imaginez? Et là, Jésus dit, Simon, ta connaissance, ta richesse t'a permis de juger cette femme. La loi que Dieu a donnée, ça devait être un pédagogue pour nous amener à Christ. La loi que Dieu a donnée, c'est disant, comme cet homme disant, Seigneur, je ne suis pas digne. Comme ce Samaritain, Seigneur, ne me regarde même pas, je ne suis pas digne. Mais le regard de Jésus, c'était un regard gracieux, parce qu'il regardait au cœur. Parce qu'il regardait certainement à la souffrance que cette femme avait. Mais quel courage de la part de cette femme, d'oser de rentrer dans la maison d'un religieux qui la considérait comme moins que rien. Mais elle savait qu'en venant vers Jésus, elle rencontra un regard d'amour, un regard de pardon, un regard de compassion, un regard de celui qui peut guérir, de celui qui peut donner un sens à notre vie. Vous vous rappelez dans la série Chosen, quand Marie de Magdala, le Nicodème, il essaye de chasser et puis il est tellement choqué. Mais cette femme, Marie de Magdala, a rencontré le regard qui peut délivrer, à rencontrer Jésus-Christ. Ah, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Prenons un autre regard que Jésus a rencontré. Un regard personnel. Comme je le disais tout à l'heure, Zachée, aujourd'hui je vais manger chez toi. Lévi, aujourd'hui tu vas me suivre. Tu vas me suivre. Je sais que tu n'es pas du tout dans des bonnes conditions humainement pour me suivre. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je suis venu t'appeler. T'appeler par ton nom. Lévi, suis-moi. Mathieu. Lévi, tout lâché. Il n'a pas regardé qu'il y avait un Romain qui n'était pas loin pour surveiller qu'est-ce qu'il fait. Il a fermé le truc. Seigneur, oui, j'abandonne ma richesse. J'abandonne ma culpabilité. J'abandonne mon travail pour les collabos pour te suivre. Oui, Zachée. Seigneur, je vais donner une partie de la richesse matérielle à ce que j'ai peut-être volé. Et tout le monde, qu'est-ce qu'il faisait? Il murmurait dans la maison de Zachée. Mais Zachée se tournait devant le Seigneur. Donc, ce que les autres disent n'a plus d'importance. Parce que je sais celui qui m'a sauvé. Parce que je sais qui je suis en Christ. Vous voulez un autre exemple? La femme au puits, quand Jésus, la Samaritaine, c'était quoi le regard de Jésus? Oh là 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 là! Ton cinquième mari, t'es louche, toi. Eh non, appelle ton mari. Laisse-moi te donner la vie en abondance. Laisse-moi amener des fleuves d'eau dans ta vie. Tu es peut-être sec dans le désert. Tu cherches à travers les hommes l'amour, le réconfort, quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui te soutient. Laisse-moi remplir ton cœur désertique. Laisse-moi t'attirer, Osée chapitre 2, dans le désert, parler à ton cœur. Parce que le regard que j'ai sur toi est un regard d'amour, de compassion. Quel est le regard que Dieu a sur ce monde? Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que le monde, il est parfait? Oh non. Est-ce que le monde, il plonge dans les ténèbres, dans le péché? Oh oui. Pourtant, quel est le regard de Dieu pour la race humaine. Genèse chapitre 3, verset 10. Où es-tu? Oh, je sais où t'en es. Laisse-moi t'en sortir. Laisse-moi te donner la victoire. Laisse-moi te donner ce que tu cherches de plus précieux. J'en te regardais que je ne regarde même pas mes notes, mais ce n'est pas grave. Et vous savez, il y a quelque chose d'autre, autant que chrétien, qui peut nous empêcher de marcher fier de la carrière que Dieu a tracée pour nous, de marcher dignement, de marcher en combattant, de marcher en élevant la parole de Dieu, c'est regarder aux circonstances. Quand Jésus, vous vous rappelez le passage quand Jésus marche sur l'eau et Pierre il dit quoi? Seigneur, si c'est toi, dis-moi, ordonne que je viens. Tant que Pierre gardait le regard sur Jésus, il pouvait marcher. Quand il a choisi de regarder à son incapacité naturelle, quand il a choisi de regarder aux vagues, aux circonstances, et commencer à couler. Et encore une fois, il y a toujours Jésus qui est là pour le secourir. Regardez, Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et je suis sûr que si on regarde tout au long de la Bible, le regard que Dieu a sur nous. Mais pour ça, on doit choisir, ok Seigneur, tout ce qui me retient, peut-être mes incapacités naturelles, peut-être Seigneur, ma maladie, peut-être se dire je suis trop vieux pour m'engager avec toi, ou je suis trop jeune. Toutes ces choses, je veux les abandonner, je veux te suivre. Et cela est possible quand on réalise que Jésus nous aime. Que Jésus a payé le prix fort. Que Jésus nous soutient, intercède pour nous encore aujourd'hui. Que Jésus a le ministère de sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek encore pour nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on est là ce soir, si on se tient devant Dieu, c'est parce que Jésus nous précède en toutes choses. C'est parce que Jésus est notre ancre solide qui est au ciel. Et je disais que le regard de Jésus, c'est pour lors de notre salut, maintenant et pour après. Lors de notre salut, le fait que nous avons regardé à Jésus, nous avons réalisé que nous étions pécheurs. Son amour a bouleversé notre vie et nous avons choisi de le suivre. Durant ce chemin de pèlerin sur cette terre, parce qu'on porte notre regard sur Christ, Hébreux chapitre 12, verset 2, nous pouvons marcher. On ne peut pas marcher dans une direction si nous ne portons pas les regards. Imaginez quelqu'un qui conduit. Vous ne fermez pas les yeux. Quelqu'un qui conduit. Quelqu'un qui pilote un avion ne ferme pas les yeux. Et nous, c'est pareil. Fermons pas les yeux. Gardons nos yeux fixés sur Christ. Il y a des circonstances qui peuvent nous faire peur, qui peuvent nous attaquer, qui peuvent nous déstabiliser. Gardons les yeux fixés sur Christ, car à ce moment-là, on peut bâtir comme Néhémie. Car à ce moment-là, on peut sonder les Écritures. Car à ce moment-là, on peut mélanger ce que nous entendons. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et plus j'entends la parole de Dieu, plus je garde les yeux fixés sur Christ, plus je peux marcher dignement dans la carrière que Dieu a mis devant moi. Et je disais, pour la suite, c'est-à-dire après cette vie sur cette terre, on peut, autant qu'être humain, avoir peur de la mort. Mais parce que nous gardons les yeux fixés sur Christ, cela va nous rassurer. Rappelez-vous Étienne pendant qu'il se faisait lapider. Et je vois le Fils de Dieu. Et je vois Jésus-Christ. Est-ce qu'il a senti la douleur? Certainement. Mais le fait de voir Jésus, ça l'a, je ne sais pas, ça a boosté sa foi pour dire « Seigneur, je te rejoins ». Je pensais tout à l'heure à un regard encore de Jésus qui est, je vais dire inhumain, littéralement, il n'est pas naturel. Mais un regard, encore une fois, de missionnaire, de celui qui cherche la brebis perdue. Vous vous rappelez le bandit à la croix, le deuxième? Seigneur, souviens-toi de moi. C'était quoi le regard de Jésus? Est-ce que c'était un regard de mépris? Certainement pas. Oui, aujourd'hui tu seras avec moi. Je suis venu payer pour toi. Je suis venu parce que tu étais là, brebis égarée. Oh là là. Le regard de Jésus. J'ai quasiment pas regardé mes notes, mais c'est pas très grave. Hein, parce que je voulais vraiment insister sur le regard de Jésus de notre vie. On peut se dire, Seigneur, notre église, elle est trop petite. Portons notre regard sur Christ, cela n'a pas d'importance. Seigneur, les gens deviennent de plus en plus durs à l'évangélisation. Portons notre regard sur Jésus-Christ. Seigneur, j'attends dans tel et tel domaine une réponse et je prie avec ferveur tout ça. Gardons nos yeux fixés sur Christ. Seigneur, quelqu'un de ma famille peut-être traverse un deuil et peut-être traverse une maladie. Gardons les yeux fixés sur Christ. L'ennemi va tout faire pour nous détourner de ce regard d'amour, de ce regard de compassion, de ce regard qui nous donne de courage, de ce regard qui il dit, oui, c'est vrai, naturellement, c'est impossible. Je le sais, mais avec moi, toute chose devient possible. Comme nous avons lu tout à l'heure dans Marc, chapitre 10. De ce regard qui dit, allez, t'as fait 1000, fais un 2000. Seigneur, j'ai tellement fait d'efforts dans ce domaine. Ok, continue. Porte ton regard. Seigneur, je me suis tellement engagé dans l'église et je n'arrive pas à trouver peut-être ma place. Porte ton regard sur Christ parce que c'est lui qui bâtit son église. Seigneur, humainement, je n'ai peut-être pas en toi. Humainement, Seigneur, il me manque ça, 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 ça. Porte ton regard sur Christ. Parce que quand on porte nos regards sur Christ, même dans les prisons humaines, on peut adorer notre Dieu. Rappelez-vous Paul et Silas. Même dans la difficulté, même quand l'ennemi nous entoure de tout part, on peut dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour montrer que tu es là, comme Élisée, son serviteur. Ne crains pas. Comme Josué, qui se tient devant ce pays à conquérir. Seigneur, c'est trop grand pour moi. Je sais, mais continue à garder ton regard sur moi. Il y a des géants, c'est pas grave. Il y a un Goliath qui est devant toi, c'est pas grave. Continue à garder ton regard sur moi. Mais avant de garder ce... Parce que en gardant le regard, on va réaliser comme l'apôtre Paul que tout ce qu'on possède humainement, nos émotions, tout ce qui est dans la chair, tout ce qui est toutes ces choses-là, c'est pour un court temps. C'est pour un court temps. Et parce qu'on garde nos regards sur Christ, on peut dire comme l'apôtre Paul, mais je sais qui je suis. Je sais qui m'a appelé. Je sais qui me conduit. Psaume 23. Je sais qui dresse une table en face de mes ennemis. Je sais qui a fait de moi la lumière, l'ambassadeur. Je sais qui m'a appelé. Je sais qui porte son regard sur moi. Et je vais vous dire encore une dernière chose. Le nombre 6, on sait que ça fait, c'est le chiffre de l'homme, mais dans la pensée hébraïque, c'est aussi qu'il te manque quelque chose. Et Jésus, il a parlé 6 commandements, pas les 10. Il te manque quelque chose. Oui, les commandements sont bons, mais il te manque quelque chose. C'est la vie Zoé, la vie de résurrection. Jean chapitre 10, verset 10. Une vie en abondance. Voilà, je vais juste m'arrêter là ce soir. C'était court. Mais juste, garde notre regard sur Christ. Quand on garde notre regard sur Christ, on réalise qui il est et ce qu'il a fait de nous. Amen.